Aujourd'hui, nous recevons le professeur Abraham Froid. Monsieur le professeur, vous êtes né le 11 octobre 1934 à Bayonne. Vous êtes diplômé de l'École des hautes études commerciales de Paris, des études supérieures d'économie politique de Paris, de l'IEP de Paris, ainsi que des études supérieures de droit public. Vous êtes fondateur et directeur du magistère d'économie et de gestion, membre de l'équipe de direction de l'Université de Paris 10, Nanterre. Vous êtes professeur à l'Université de Paris 10, directeur du laboratoire MODEM, modélisation de la dynamique économique et monétaire, créé le 1er janvier 1994. Vous êtes donc un spécialiste de l'économie et de la gestion et de la dynamique monétaire. Et enfin, vous avez, dans le cadre de vos publications, vous êtes d'abord rédacteur en chef de la revue Économique et Politique, et vos principaux ouvrages sont les suivants, à savoir Dynamique économique, édité chez Dalloz en 1995, Économie politique chez Economica en 1996, Instabilité, cycle et chaos chez Economica en 1995 également. Vous êtes également ouvert vers l'international et écrit les ouvrages suivants, Prices, Profit and Rhythms of Accumulation de Cambridge en 1997, Nonlinear Dynamics and Endogenous Cycle de chez Springer Verlag en 1998, et enfin Theory of Value, Prices and Accumulation de chez Cambridge en 1976. Monsieur le professeur, je vous laisse la parole.
Merci Madame la Présidente. J'ai donc à parler des cycles et fluctuations économiques et au fond le moment est bien choisi puisque nous avons appris ce matin que le taux de chômage avait baissé de 15% depuis un an et finalement c'est une grande surprise en quelque sorte. Je rappelle que le taux de chômage a baissé de 3 points, il était à plus de 13% il y a 3 ans, il est descendu aux alentours de 10%. Irrégularité de la conjoncture, donc les choses varient, il y a très longtemps qu'on le sait. Il y a très longtemps qu'on sait que la prise de conscience de l'irrégularité de la conjoncture est en fait assez ancienne. Dans les économies agricoles, les crises de subsistance sont une évidence, durement ressentie, pensez aux crues du Nil, pensez aux famines et disettes du Moyen Âge. On trouve même, sans remonter très loin, mais tout de même ça remonte assez loin, on trouve même dans l'Ancien Testament une première idée de la périodicité de l'apologue des vaches maigres et des vaches grasses. Il s'agit d'un rêve de Pharaon que Joseph lui explique, c'est sans doute vers 1700 avant notre ère, où Pharaon a vu apparaître dans son rêve sept vaches maigres et sept vaches grasses. Et donc, Joseph lui explique qu'il s'agit sans doute d'une période où il y aura sept années, où il y aura grande abondance dans tout le pays d'Égypte, puis la succéderont cette année de famine. Et rassurez-vous, je ne vais pas faire de l'exégèse biblique là, mais je voulais simplement rappeler cette périodicité assez ancienne, même s'il s'agit de crises, de fluctuations tout à fait différentes de celles que nous connaissons maintenant. C'est en effet avec la révolution industrielle que des crises tout à fait différentes apparaissent. Cependant, avec la révolution industrielle, la nouveauté du phénomène est difficile à apprécier. Pourquoi ? Parce qu'il y a une très grande lenteur de prise de conscience de cette nouveauté. D'abord parce que l'industrialisation est limitée. À titre d'exemple, on peut penser que la première crise qui apparaît en 1825, elle apparaît en Grande-Bretagne, et que la France et l'Allemagne, moins développées, lui échappent largement. Une deuxième raison, c'est le développement simultané, dans certains cas, de deux types de crises. Ainsi, la crise de 1848, qui coïncide avec la Révolution française, la crise de 48 en France, est sans doute à la fois une crise de subsistance, une crise du blé, une crise d'ancien régime, et une crise moderne, une crise des chemins de fer. C'est donc tardivement que les spécialistes s'interrogent sur ce que c'est finalement que les fluctuations économiques. Il faut tout de même rendre hommage à Clément Juglar, c'est un Français, qui en 1862, c'est donc finalement il y a 150 ans, il y a 140 ans, fait une première analyse de ces mouvements récurrents qu'il appelle des crises commerciales et leur retour périodique en France, en Angleterre et aux États-Unis. Dans cet ouvrage novateur, l'auteur met en évidence des mouvements réguliers, périodiques de l'activité et des prix, dont la durée moyenne serait de 9 à 10 ans. Ce cycle juglar est encore appelé un cycle court ou cycle moyen, par opposition à d'autres types de cycles. Plus tard, on met en évidence aux États-Unis des cycles plus courts, des cycles de 40 mois, c'est le cycle Kitchin. Et surtout dans l'entre-deux-guerres, Kondratiev, Nicolas Kondratiev, que je n'ose pas qualifier d'économiste soviétique parce qu'il a terminé sa vie dans le goulag, si je ne me trompe pas, Kondratiev a attiré l'attention sur l'existence de cycles longs d'une durée supérieure au demi-siècle. Le premier, Kondratiev, démarrait vers 1790 avec un point de retournement haut vers 1815 et une contraction qui se terminerait vers 1850, date à laquelle se développerait la période d'expansion du deuxième Kondratiev. On voit bien apparaître là, d'ailleurs, la concomitance entre les mouvements économiques et les mouvements politiques. 1850 est une période de révolution générale dans l'ensemble des pays européens. Expansion du deuxième Kondratiev, qui atteindrait son maximum vers 1873, ça coïncide évidemment avec la période du Second Empire, et à la fin du 19e siècle, il apparaît une période de grandes difficultés économiques, de grandes crises, aussi graves, on l'oublie trop, que la crise de 1929, période de contraction du deuxième Kondratiev qui s'achèverait vers 1896. Il faut renvoyer pour cela des choses que nous connaissons tous, là, les grandes grèves de la fin du siècle dernier. C'est à cette date qu'apparaîtrait la phase d'expansion du troisième Kondratiev, qui aurait un point de retournement vers, évidemment, 1930. On peut ajouter que pour un certain nombre d'auteurs, un quatrième Kondratiev serait apparu vers 1940 avec un point de retournement haut vers 1970, point de retournement bas, nous l'espérons, vers l'année 80-90, et peut-être, soyons-nous, j'y reviendrai, sur la phase ascensionnelle d'un nouveau Kondratiev. L'explication éventuelle, elle est due à Joseph Schumpeter, qui a tenté d'expliquer les cycles longs par des vagues d'innovation. Machines à vapeur, électricité, suivant le cas, énergie, vapeur donc pour la révolution industrielle, voie ferrée pour le deuxième Kondratiev, produits chimiques pour le troisième. Dans ces conditions, la nouvelle croissance que certains voient apparaître maintenant ne serait dans cette vision que le point de départ d'un nouveau Kondratiev dont l'écho serait les innovations fondamentales ainsi que les nouvelles formes d'organisation. Tous ces travaux sont évidemment marqués par l'idée, la préoccupation, de dégager des régularités. On emploie le terme de cycle pendant longtemps. Terme intéressant, puisqu'il renvoie à l'idée d'un monde qui est régi par des lois assez semblables, évidemment, à celles de la physique. La sinusoïde est évidemment l'exemple parfait d'un mouvement absolument régulier, dans son amplitude et sa périodicité. Il est clair que les mouvements réels des variables économiques sont très loin d'avoir cette régularité. Aussi, les termes d'oscillation, de fluctuation, sont-ils, pardonnez-moi, préférables et largement utilisés. Mais la dénomination de cycle reste largement employée, ce qui explique le titre un peu ambigu de cette conférence, à la fois cycle et fluctuations économiques. Idée de souligner le caractère récurrent de l'activité. Les études portent à la fois, d'ailleurs, il faut le rappeler, sur les prix, la production, l'activité et l'emploi. Pour les premiers auteurs qui s'intéressent au problème, à la fin du siècle précédent, enfin, excusez-moi, du 19e siècle, j'ai oublié, et au début du 20e, il est clair qu'au cours des différentes phases de la conjoncture, ces trois types de variables, prix, activité et emploi, varient dans le même sens. Une phase d'expansion, c'est à la fois une phase de hausse de prix, d'accroissement du niveau d'activité et d'accroissement de l'emploi. Une phase de dépression, je vais y revenir, c'est l'inverse, Il y a donc, c'est symétrique en quelque sorte, diminution des prix, l'activité et de l'emploi. C'est là une expérience assez intéressante et une opposition importante avec les évolutions plus récentes. À la fin des années 60, le néologisme de stagflation est forgé pour caractériser la situation. Stagflation, ça veut dire coexistence d'inflation, d'hausse de prix et de stagnation de l'activité économique. On parlera plus tard d'ailleurs de slumflation, c'est un néologisme anglo-saxon, pour caractériser cette fois le cas de coexistence d'inflation, d'hausse de prix et de baisse du niveau d'activité, de ce qu'on appelle un slump. Dans ses premiers travaux, la liaison avec la tendance longue n'est guère envisagée. Les premières théories des cycles sont vues comme des fluctuations assez régulières autour d'une tendance de long terme horizontale. Il y a donc, au départ, dans ces premiers travaux, auxquels je me réfère volontiers pour examiner ces premières analyses, il n'y a pas de liaison entre les variations conjoncturelles de l'activité et la croissance longue. Il y a certes une exception. L'exception est importante, c'est celle constituée par l'analyse d'un économiste un peu méconnu et oublié qui s'appelle Karl Marx. Et parce qu'effectivement, il avait tenté, c'est une innovation importante, d'intégrer l'analyse des crises à celle du processus d'accumulation de longue période. Mais Marx n'a laissé qu'une ébauche de théorie des crises, même si ses travaux ont été repris par ailleurs par Schumpeter en particulier, dont j'ai parlé il y a quelques instants. Donc, dans ces problèmes de crise, la terminologie est importante et d'ailleurs, le découpage du cycle pose quelques problèmes sur lesquels je voudrais revenir maintenant en insistant sur les problèmes de terminologie, nous allons voir pourquoi. Pour la plupart de ces auteurs, un cycle qui se déroule sur un certain nombre d'années va d'un maximum, la crise, à un autre maximum, la crise. Les phases intermédiaires sont donc des phases d'expansion ou de dépression. Il est remarquable, et c'est pour ça que j'en parle bien sûr, que dans ce type de présentation, la crise soit un moment, un temps du cycle. J'ajoute que, au cours de ce qu'on appelle les trente glorieuses, moi-même c'est lequel je vais revenir, le terme de récession avait été introduit pour indiquer, pour dégager, pour mettre en évidence des phénomènes nouveaux, la diminution du taux de croissance. Les 30 glorieuses sont une période 45-75, où en Europe, en tout cas, on a une période d'expansion soutenue. Il n'y a pas de crise au sens habituel, en quelque sorte. Il n'y a pas d'oscillation aussi forte. Et donc, on a introduit le terme de récession pour indiquer simplement une diminution dans le taux de croissance. La notion de crise semblant alors devoir être réservée aux situations de diminution du niveau de la variable considérée. Mais là encore, il faut faire attention, parce qu'évidemment, alors que pour un certain nombre d'entre nous, nous avons été habitués à dire que la France était rentrée en crise, je vais y revenir, au début des années 70, depuis le premier choc pétrolier, de 73-74, le taux de croissance du produit intérieur brut en France, c'est-à-dire le taux de croissance de l'activité, a certes diminué, mais il n'est devenu négatif qu'en 1993, et encore, la diminution a été extrêmement limitée, de l'ordre de 1%, et provisoire, puisque dès 1994, le taux de croissance du PIB est devenu positif et supérieur à 2%. Le terme de crise doit donc être manié avec précaution, avec d'autant plus de circonspection, parce que la situation d'un certain nombre d'économies, tiers-monde, pays de l'Est, a été beaucoup plus grave. Des baisses considérables, de véritables effondrements dans le produit national et le niveau de vie, parfois de 30 à 50%, ont été constatés sur la période récente. On voit par là que le même mot, peut renvoyer évidemment à des situations tout à fait différentes. Un changement profond apparaît bien tout de même dans les années 70, et je voudrais rapidement indiquer ce qui s'est passé ou ce qu'on dit s'être passé. Dans les années 45-75, on parle souvent de Trente Glorieuses, terme forgé par un sociologue français, Jean Fourastier, pour indiquer cette période de croissance où, en moyenne, le taux de croissance en France a été de l'ordre de 5,5%. Période de croissance soutenue, bien sûr, mais dont on peut douter tout de même qu'il ait duré 30 ans. Parce qu'en fait, les années 45, c'est une période de reconstruction, et dès les années 73, il y a déjà des changements importants qui apparaissent. Le terme de crise qui est employé pour marquer ce qui s'est produit ensuite, le passage peut-être des 30 glorieuses aux 20 pâteuses, sinon les 20 piteuses, puisque le taux de croissance a diminué considérablement. Le terme de crise pose cependant problème, puisque le niveau de vie moyen des ménages français, loin d'avoir baissé, s'est accru dans des proportions considérables. On peut estimer que le niveau de vie moyen des ménages français s'est accru de 30 et supérieur de 30 à 50% actuellement à ce qu'il était il y a 25 ans. Bien entendu, cette croissance moyenne ne doit pas masquer un fait tout à fait important et que nous connaissons bien, savoir la montée du chômage et également, bien sûr, la croissance des inégalités. En outre, dans ce contexte de croissance ralentie, des cycles, des fluctuations apparaissent. Au fond, ce qui apparaît depuis le début des années 70, période sur laquelle je voudrais centrer mes développements, c'est qu'il y a eu des oscillations importantes, et comme on peut le voir avec ces outils magnifiques, non, je ne vais pas m'en servir. Voilà. Non. Ah, pardon, c'est l'autre, là. Voilà. On peut voir ici des périodes de forte croissance opposées à des périodes de croissance moins forte. Période de forte croissance, les années 70-73, je ne sais pas si c'est lisible hein, pour vous de loin, j'ai l'impression que mes chiffres ne sont pas suffisamment lisibles, donc il faudrait peut-être essayer de préciser un petit peu si on peut. Merci, pardonnez-moi. Donc des périodes de forte croissance, les années 70-73, voilà, ça serait mieux comme ça. Merci. 70-73, période de forte croissance, ainsi que les 76-79, l'année 81, les années 87-89. Et puis des périodes de récession, 74-75, on le voit bien maintenant, 79-80, 82-84, 90-93. Le graphique que je vous ai indiqué ici, que j'ai présenté ici, montre bien la rareté et la brièveté des périodes où le produit intérieur brut diminue. Ce n'est guère qu'en 1993, comme je vous l'ai déjà indiqué, que ceci apparaît, la diminution de la croissance, la diminution du produit est limitée et elle est brève, puisqu'on repart ensuite. Alors, maintenant, il convient de s'interroger tout de même sur un problème qui me paraît tout à fait important. Un premier problème, pourquoi cette fin des Trente Glorieuses ? Pourquoi ce passage dans les années 70-73, ce passage à une période de croissance, disons, ralentie avec la montée du chômage, bien sûr. Il est évidemment fréquent de dater 73-74, la fin de la période de croissance soutenue et régulière, et d'attribuer au choc pétrolier de 73-74 la responsabilité très lourde d'avoir mis fin à la période bénie et un peu mythique des Trente Glorieuses. Les difficultés sont en fait antérieures. Le terme de stagflation, que j'ai déjà caractérisé, coexistence de la stagnation et de l'inflation, il est forgé par un chancelier de l'échiquier britannique dès la fin des années 60, marquant dès lors la difficulté de concilier le plein emploi et la stabilité des prix. La fin des années 60 et le début des années 70 sont marqués par des conflits sociaux importants et par des hausses de salaires fortes dans beaucoup de pays industrialisés. L'abandon du système de parité fixe de Bretton Woods, la dévaluation du dollar, le flottement général des monnaies marquent, bien avant le choc pétrolier, l'ampleur des problèmes. Alors ces problèmes, comment peut-on les caractériser et quels sont les enjeux que l'on peut mettre en évidence? Il me semble qu'un élément important, c'est bien entendu les problèmes internationaux dont j'ai parlé, sur lesquels je ne reviendrai pas, ou pas trop, mais je voudrais signaler que c'est sans doute autour du partage du revenu national, ce qu'on appelle dans notre jargon le partage de la valeur ajoutée, que naissent les conflits sociaux les plus importants. L'ensemble des analyses faites sur la situation de l'industrie en France et dans l'ensemble des pays européens fait apparaître des tensions extrêmement fortes pour le partage de la valeur ajoutée depuis le milieu des années 60. Ces tensions sont exacerbées, évidemment, par l'augmentation du prix de l'énergie, qui peut être interprétée comme un transfert de richesse vers l'extérieur, c'est-à-dire que dans ces conditions-là, le partage du gâteau est rendu plus délicat. De l'extérieur, vers l'extérieur, il y a transfert de richesse, ce qui exacerbe évidemment les conflits entre, disons, revenus salariaux et revenus non salariaux. Les tensions internes autour du partage du revenu national ont été extrêmes, et je voudrais ici indiquer deux graphiques qui vont permettre d'illustrer l'évolution. Ce premier graphique vous indique le taux de marge des sociétés, c'est-à-dire, en quelque sorte, pour reprendre la terminologie habituelle, pardonnez-moi, merci, la part des profits dans le revenu national. Si l'on remonte à quelques décennies en arrière, le rapport de l'excédent brut d'exploitation à la valeur ajoutée, ce qu'on appelle le taux de marge dans le jargon de la comptabilité nationale, ce rapport de l'excédent brut d'exploitation à la valeur ajoutée se relève dans tous les pays de l'OCDE, pratiquement, au cours de la deuxième moitié des années 60. Ce mouvement s'interrompt dès le début des années 70 dans la plupart des pays, mais il se prolonge jusqu'en 1973 en France. Il s'interrompt en 1975, il s'effondre, pardonnez-moi, en 1975, reste à peu près stable pendant le reste de la décennie, et subit, au début des années 80, une nouvelle dégradation largement imputable à l'augmentation de la charge salariale dans la valeur ajoutée, de la part salariale, augmentation due, rappelons-le, non pas à la progression des salaires, mais à celle des cotisations sociales. L'évolution de la part des salaires dans la valeur ajoutée permet de confirmer le diagnostic. C'est un peu le même graphique qui apparaît, mais si je puis dire, symétrique. Voyez ici comment la part des salaires a monté, si je puis dire, et comment on a pu apparaître donc ces changements importants dans le partage de la valeur ajoutée. Donc la part des salaires, ici, attendez, voilà, non, frère, non, voilà, voilà, comme ça, c'est très bien comme ça, voilà, c'est magnifique, voilà. Donc, vous voyez, maintenant, c'est lisible, c'est merveilleux, je vous remercie beaucoup, effectivement. Donc, vous voyez, ces mouvements, ça monte jusqu'à près de 65%, et ça diminue jusqu'à 58%. Donc il y a des changements importants et la part des profits, l'excédent brut d'exploitation, le taux de marge varie en sens inverse. Parallèlement, bien sûr, je le rappelle, on assiste à une montée du chômage particulièrement impressionnante dans le cas de la France, où le taux de chômage passe d'environ 2% dans les années 60. On est en situation de quasi plein emploi. Environ 12% dans les années 80 et donc 13% il y a 3 ans. L'inflation se développe, je le rappelle, et après une poussée particulièrement forte au moment du premier choc pétrolier, l'économie française a du mal à faire descendre le taux moyen d'inflation au-dessous de 10%. C'est à partir de 1983 que finalement les choses changent. Les résultats des entreprises se redressent, une évolution très favorable qui s'explique essentiellement par deux phénomènes. D'une part, le ralentissement de la hausse du prix du pétrole, le ralentissement du prix des consommations intermédiaires, l'énergie. Ah, c'est piégé, ces bêtes-là. Voilà. Voilà, j'ai trouvé. Mais si, c'est. Oh, c'est presque bien, écoutez, vous exagérez un peu, là. Voilà. Donc, pourquoi ça s'améliore à partir de 83? Pour deux raisons, semble-t-il. Ralentissement du prix des matières premières, l'énergie, suite au contre-choc pétrolier, et d'autre part, le freinage à l'augmentation des salaires, dû largement au plan de rigueur Mauroy Delors, dont un certain nombre d'entre nous ont subi douloureusement les conséquences. Le redressement économique s'accélère à partir de 1984, nous l'avons vu effectivement sur les taux de graphique, la croissance reprend. En 1986, le taux de marge atteint un niveau supérieur à celui précédant le choc pétrolier. Et donc, tout va bien, semble-t-il. Tout va bien. Et on a sans doute là une partie de l'explication du paradoxe que constitue le peu de conséquences du krach de 1987 qui va maintenant retenir quelques instants mon attention. La question que je voudrais maintenant aborder, un peu rapidement bien sûr, c'est de parler des crises financières et de dire à propos des crises financières pourquoi 87 n'a pas répété 29. Je rappelle qu'en octobre 87, l'effondrement de Wall Street est d'une importance comparable à celui qu'on a connu en 1929. L'émoi est considérable dans l'ensemble des capitales. J'étais à New York à un colloque à ce moment-là. Les Américains sont en état épouvantable et sur tous les marchés financiers, c'est la panique globale. Les prévisions sont extrêmement pessimistes. Il y a des articles dans les journaux ou dans un grand journal du soir que je ne citerai pas, bien sûr. Et il y a un dessinateur célèbre qui indique comment les économistes se lamentent. Ils ont raison de se lamenter, puisqu'on fait des prévisions tout à fait pessimistes, et ce qui est très extraordinaire d'ailleurs, c'est que les prévisions sont démenties par les faits. La croissance mondiale n'est pas affectée, et 88 est une période de reprise considérable de l'activité économique en France. On crée des emplois en 88-89 de manière considérable, et on retrouve pratiquement les créations d'emplois que l'on avait connues dans les Trente Glorieuses. Alors comment s'explique ce paradoxe et pourquoi donc le krach de 87 n'a pas eu les conséquences de 29? Pour l'expliquer, il convient de revenir sans doute sur un élément essentiel de la crise de 29. L'effondrement de Wall Street a eu une conséquence essentielle, savoir la destruction du système de crédit américain. Quand Roosevelt arrive au pouvoir en 1933, il lui faut prendre des mesures d'urgence pour restaurer le système bancaire qui est ruiné. Il n'y a plus de banque. L'explication est simple, il faut quand même le rappeler. Le système fédéral de réserve, c'est-à-dire la banque des banques américaines, a laissé fonctionner librement le marché et a refusé complètement d'aller au secours des banques que l'effondrement du marché financier mettait en difficulté. Il convient en effet de rappeler qu'un effondrement de la bourse n'a pas simplement pour conséquence de ruiner quelques golden boys ou girls, de ruiner des spéculateurs hasardeux et éventuellement un certain nombre de ménages dont le portefeuille d'actions s'est effondré. Elle ruine également les banques dont les actifs sont largement constitués de titres et qui donc ne peuvent plus faire face à leurs engagements quand les clients se présentent aux portes pour demander le remboursement de leurs dépôts. D'où un effet de domino, un effet de faillite en chaîne qui explique très largement les conséquences désastreuses du krach boursier de 1929, pardonnez-moi ce lapsus significatif. Cette erreur de gestion, ce refus d'intervention du système fédéral de réserve en 1929, n'a pas eu lieu en 1987. Le surlendemain du krach boursier, le système fédéral de réserve annonça qu'il interviendrait à l'open market, c'est-à-dire qu'il allait venir au secours des banques en difficulté. Il est d'ailleurs intervenu rapidement et de façon relativement modeste. C'est que annoncer l'intervention a changé les anticipations des agents. Le fait que les agents aient compris qu'il était possible qu'il y ait une intervention du système central a calmé le jeu. Les gens sont plus précipités vers leur dépôt pour demander le remboursement de leur dépôt. Et dans ces conditions-là, le système a pu continuer à fonctionner. On voit donc là une des clés de la différence entre les conséquences des krachs boursiers de 1929 et de 1987. J'ajoute que, dans le cas français, bien sûr, le rétablissement et la situation des entreprises, l'assainissement des bilans, est un élément supplémentaire qui explique que non seulement il n'y a pas eu crise, mais que l'expansion a repris avec de fortes créations d'emplois en 1988, expansion qui s'est poursuivie pour l'essentiel pendant une bonne partie des deux années qui ont suivi. Alors maintenant, évidemment, il y a une question qui se pose. Pourquoi la récession de 90-93? Pourquoi y a-t-il une récession en 90-93? Eh bien, pour cela, je voudrais essayer de commenter rapidement quelques graphiques ici. Et d'abord, ce premier graphique, qui est un peu compliqué au départ. Alors, on va se mettre ça. Voilà. Non, ça c'est trop là. Voilà, c'est merveilleux. Stop. Pardon. Voilà, c'est bien. On ne peut pas faire beaucoup mieux. Ce premier graphique montre ce qui s'est passé sur le plan de la politique monétaire et la différence qu'il y a eu en ce qui s'est passé, je vais le commenter, entre les différents pays. Et en particulier, ici, vous avez en haut, ce n'est pas très lisible, le taux directeur de la Banque d'Angleterre. Là, vous avez le taux d'intervention de la Banque de France et le taux d'intervention de l'Allemagne. Et en dessous, le taux de base des banques américaines. Je m'explique. À l'époque, en 89, apparaît pour des raisons diverses une dépression, parce que les choses changent, bien sûr. Et donc, en 1989, pour lutter contre la dépression qui apparaît au niveau mondial, il se produit un grand mouvement de baisse des taux d'intérêt à court terme. Vous savez que pour lutter contre la crise, on diminue les taux de l'intérêt, ce qui permet de relancer le crédit. Donc, en Angleterre, aux États-Unis et au Japon, je n'ai pas mis le graphique sur le Japon pour ne pas alourdir, bien sûr, on joue effectivement dans des conditions normales, on baisse les conditions d'accès au crédit. Par contre, en Allemagne, se pose un problème particulier. L'Allemagne est confrontée au problème suivant. Au cas où vous les oubliez, en 89, il y a le mur de Berlin qui s'effondre. Et dans ces conditions-là, il y a le phénomène central, la réunification allemande. Réunification allemande qui pose un problème de financement. Et l'Allemagne, pour des raisons diverses, a des problèmes de financement. Et pour lutter contre la surchauffe qui risque d'apparaître, elle décide de maintenir le taux d'intérêt à court terme, le taux dit Lombard, donc politique monétaire de lutte contre la surchauffe en Allemagne, pour lutter contre l'inflation, pour lutter contre les déséquilibres qui apparaissent, qui sont consécutifs en quelque sorte à la réunification. La Banque de France garde la parité, elle suit le mouvement, à la fois pour des raisons financières, garder la parité franc-marque, qu'un décrochage entre les taux d'intérêt français et allemand aurait mis à mal, pour des raisons économiques, il s'agit de casser définitivement les anticipations d'inflation, et pour des raisons politiques. Il s'agit effectivement d'avoir un ancrage avec l'Allemagne, avec le Mark, c'est le cas des accords de Maastricht. Dans ces conditions, qu'est-ce qui se passe? Il est clair que, du même coup, bien sûr, les pouvoirs publics en France, la Banque centrale, perd tout pouvoir d'action sur la politique monétaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va agir sur le budget. Il y a des chômeurs, bien sûr, et en plus, on décide d'agir au maximum par le budget, et dans ces conditions-là, deuxième aspect, deuxième graphique, rassurez-vous, il n'y en aura plus beaucoup d'autres, mais tout de même, il y en a encore deux autres. Ah, là, c'est moins joli, mais ça ne fait rien. Du même coup, les pouvoirs publics, oh, c'est presque, ah oui, on n'avait pas prévu ça, hein, je suis très mauvais. Voilà. Du même coup, les pouvoirs publics perdent la maîtrise de la politique monétaire et donc se résignent à faire du déficit. La seule à leur disposition reste la politique budgétaire. En conséquence, le déficit public explose, passant d'une centaine de milliards dans les années 90-91 à près de 300 milliards, à plus de 300 milliards en 1994. Je vous rappelle qu'il est en train de diminuer aux alentours de 200 milliards pour cette année, sous réserve des problèmes de cagnotte fiscale dont je ne parle pas. Troisième élément, et c'est le graphique en dessous. En 1992, on se résigne effectivement à baisser le taux de l'intérêt, et donc vous avez deux graphiques qui apparaissent ici. La politique monétaire devient plus souple, effectivement. Le taux d'intérêt à court terme baisse, mais en même temps, l'écart entre la France et l'Allemagne est négligeable, mais en même temps, il se produit une remontée catastrophique du taux d'intérêt à long terme. Le moteur de cette ascension s'explique cette fois par l'ampleur du déficit public et la montée des endettements. La perte de la maîtrise des instruments de régulation traditionnels, le fait que l'abaissement des taux d'intérêt, la politique du crédit et le desserrement de la contrainte budgétaire aient été rendus simultanément inopérants, explique largement l'arrêt de l'expansion à cette époque et le fait que la récession ait été longue et pénible, la sortie de crise n'apparaissant qu'en 1997-1998. D'où une dernière question. Nouvelle économie, retournement conjoncturel ou nouveau régime de croissance? Il convient de s'interroger pour conclure donc sur ce thème-là, parce que il est clair que la croissance qu'ont connue les États-Unis, que connaissent les États-Unis depuis 1991, apparaît exceptionnelle à plusieurs titres. Par sa vigueur, d'une part, particulièrement évident depuis 1996, où le produit intérieur brut a progressé à un rythme annuel proche de 4%. Par la faiblesse de l'inflation, même si depuis quelques mois, des tensions inflationnistes apparaissent susceptibles d'intervenir, en partie du fait de la hausse du prix du pétrole, qui est consécutive à la contrôle de production mis en place par l'OPEP, La surprise, effectivement, c'est que la reprise de l'activité ne s'est pas traduite aussi vite qu'on le pensait par une reprise de l'inflation. Et troisièmement, par l'accroissement des gains de productivité, en même temps, évidemment, que par la baisse du chômage. Le chômage est aux alentours de 4 ou 5%, 4%, ce qui fait d'ailleurs craindre aux responsables des mouvements inflationnistes qu'on est en train d'essayer de juguler actuellement, d'où les aléas, en particulier sur la bourse, dont nous avons tous entendu parler. Alors, trois interprétations sont alors possibles. Cette croissance que nous constatons, qui est très forte et qui est intervenue tardivement en France, est-ce que nous avons le choix? Il me semble que nous avons le choix entre trois interprétations. La première interprétation nous renvoie à l'introduction que j'ai donnée ici, au fond, l'apparition, pour simplifier, d'un nouveau cycle Kondratiev, l'émergence d'une nouvelle économie caractérisée par une hausse permanente du taux de croissance potentiel, rendue possible par quoi? D'une part, par l'impact des nouvelles technologies de l'information sur les rythmes d'accumulation du capital et du progrès technique, et d'autre part, également, par l'apparition de nouvelles méthodes d'organisation, production au plus juste, avec des problèmes sur l'emploi et les plans sociaux, mais disons que là, il y a des hypothèses qui sont faites sur l'apparition de nouvelles sources d'innovation, à la fois dans les produits, dans l'information et dans les méthodes de gestion. Une deuxième explication, en quelque sorte moins optimiste, considère qu'il s'agit d'une hausse transitoire du taux de croissance potentiel qui proviendrait d'une utilisation meilleure des facteurs de production, réformes consécutives en particulier aux réformes intervenues sur le marché du travail et sur le marché des produits. Dans ces conditions-là, la hausse de la croissance serait provisoire, en quelque sorte, et donc on devrait revenir, d'ici quelque temps, à des zones de croissance, disons, plus tolérables. Enfin, dernière interprétation, les États-Unis auraient simplement bénéficié d'un bon dosage des politiques budgétaires et monétaires, et également d'une combinaison d'éléments plus circonstanciels, dont certains ne seraient pas durables. La spéculation boursière, la bulle boursière, aurait largement contribué à la hausse de l'activité. Les ménages américains, en particulier étant plus riches, auraient effectivement consommé davantage, mais le risque de dégonflement de la bulle boursière, de la bulle spéculative, et le risque d'apparition d'une crise financière préoccupe beaucoup d'auteurs et de responsables. Les implications de ces trois interprétations sont évidemment très différentes. Et si, évidemment, on attend maintenant de savoir comment les choses vont évoluer, parce que, comme me disait sans doute un grand savant de mes amis, les prévisions sont toujours difficiles, surtout quand il s'agit d'avenir. Merci.
Merci. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Maintenant, c'est la place au débat. Avant, j'aimerais vous rappeler que la conférence demain s'intitule « La globalisation financière » et c'est Philippe Martin qui interviendra. Les questions, vous pouvez lever les mains. À droite, en bas.
Oui, et professeur, je n'ai pas très bien compris le rapport qu'il y avait entre l'extrait de la Genèse que vous avez projeté pour commencer et tout ce que vous venez d'expliquer, en quelque sorte, le rapport entre ce que les croyants appellent les cieux et l'économie un peu plus banale. Et deuxième petite chose, professeur, est-ce que vous pouvez nous dire votre définition de l'économie? Ça me permettrait de savoir si s'il y a un rapport entre le grenier de ma grand-mère dans la forêt équatoriale et M. Luc Lagardère, par exemple. Troisièmement, est-ce que dans le cycle, quelle est la part des décisions de l'homme, la part qui revient, la responsabilité qui revient à l'homme et ce qui peut revenir à la nature de l'économie même?
Bien, est-ce qu'on répond à chaque question? Bien sûr. Donc, alors, je réponds effectivement à vos différentes questions en les reprenant, si je puis dire, à l'envers, mais ça n'a pas d'importance. Vous posez une question tout à fait importante d'ailleurs sur ce problème. Qu'est-ce qui relève l'activité de l'homme et qu'est-ce qui relève de l'activité de la nature en quelque sorte? C'est un problème tout à fait important parce qu'en particulier, on peut penser au choc climatique et au problème de tempête, etc. C'est un problème qui nous concerne tous, bien sûr. Et donc, je n'ai pas abordé cette question-là directement, bien sûr, mais les économistes sont tout à fait conscients du fait que l'explication des cycles, dans un certain nombre de cas, dérive de chocs. De chocs qui peuvent être des chocs climatiques, qui peuvent être des chocs politiques, qui peuvent être des chocs de productivité, qui peuvent être des chocs de dépenses publiques. Donc il y a bien à la fois des problèmes, et là on voit bien qu'il y a à la fois la nature et l'homme qui intervient. Donc il y a des tentatives d'explication des fluctuations économiques, à la fois finalement par des raisons exogènes, l'apparition de chocs dont certains sont naturels, dont l'autre le sont moins, mais nous savons tous effectivement qu'il y a des problèmes climatiques en ce moment dont nous ne savons pas bien s'ils sont dus à la nature ou à l'homme, à l'interférence en quelque sorte entre les problèmes de pollution en particulier qui sont dus à l'homme et les problèmes naturels. Donc il y a des explications dues à des chocs et puis il y a le fonctionnement interne de l'économie, il y a des mécanismes internes à l'économie qui font que spontanément en quelque sorte, d'une part, et d'autre part, en fonction de l'intervention des hommes, je l'ai indiqué à différentes reprises, il peut y avoir des mouvements qui se produisent, des mouvements voulus, volontaires ou involontaires. Alors, deuxième question que vous me posez, quel est le rapport entre le grenier de votre grand-mère, si j'ai bien compris, et les décisions prises par tel ou tel grand responsable? Eh bien, réponse, comme vous le savez, il y a une économie qui est largement mondialisée. Et donc, je vais prendre un exemple que nous connaissons tous. Nous savons, il me semble-t-il, qu'il y a eu des décisions que je regrette personnellement, mais ceci ne doit pas être noté, bien entendu, dans le procès-verbal, en ce qui concerne le problème du chocolat. Vous savez que le chocolat, j'aime beaucoup le vrai chocolat, manifestement, et les autorités bruxelloises ont décidé que maintenant on pouvait mélanger le beurre végétal, enfin, les huiles végétales diverses avec le cacao normal. Eh bien, ça a eu des conséquences tout à fait importantes, c'est-à-dire que je crois savoir que la Côte d'Ivoire a été largement affectée parce qu'évidemment le cours du cacao a chuté. Dernière question, quel rapport, je remonte à votre première question, la Genèse était juste un élément effectivement important, je crois, qui rappelait que les fluctuations ont existé dans la mémoire des hommes, mais je n'ai pas voulu insister sur la question parce qu'il est évident qu'à l'époque, ça renvoie à une de vos autres questions, à l'époque, bien sûr, c'est largement dû aux fluctuations climatiques, les crues du Nil en particulier jouent un rôle central.
Merci beaucoup. D'autres questions en haut, à gauche.
Vous avez commencé votre présentation par une citation qui montrait l'existence d'un économiste qui ne manquait pas de courage parce qu'il faisait des prévisions.
Oui.
Ma question est la suivante. Aujourd'hui, les cycles dont vous nous parlez relèvent d'une constatation plus que d'une prévision et on cherche les causes de ces fluctuations pour essayer de les expliquer. En quoi cette recherche d'explication des cycles constatés a une influence sur des prévisions possibles ou potentielles de la future évolution économique de l'activité? En quelque sorte, peut-on faire aujourd'hui des prévisions sur les cycles futurs?
Réponse, vous avez raison de poser cette question-là, mais c'est une question un peu délicate. Et je voudrais d'abord répondre sur l'exemple que j'ai donné. L'exemple sur le rôle des prévisions, l'interaction entre les prévisions et la réalité. Au fond, les économistes se trompent, souvent. Mais je dirais presque, dans un certain nombre de cas, c'est parce qu'ils se sont trompés qu'ils ont eu un rôle important. Je m'explique. Quand, au lendemain du krach de 1987, les petits dessins que j'indiquais, montrés dans le journal du soir, que je ne citerai toujours pas, rassurez-vous. Donc, les petits dessins montrés des économistes en train de se lamenter sur la gravité de la situation, les économistes se sont trompés. Ils sont trompés puisque, comme je l'ai dit, il y a eu une grande reprise d'activité économique. Mais pourquoi il y a eu une grande reprise d'activité économique ? Parce que les économistes ont fait leurs prévisions. Et ils ont dit, si on a bien compris que si on ne faisait rien en quelque sorte, eh bien, ça aurait des conséquences désastreuses. Donc ici, il y a bien une interconnexion tout à fait complexe entre le système économique et le système de prévision. Autrement dit, je reprends la question autrement, mais je vais essayer d'aller plus loin ensuite. Quand un météorologue prévoit une tempête, le fait d'annoncer la tempête ne change pas la tempête. Quand un responsable quelconque annonce finalement une crise, ça change la nature de la crise. Donc ça modifie sensiblement, bien entendu, les problèmes de prévision. Alors maintenant, question, est-ce que nous avons des outils pour prévoir la prévision ? Effectivement, a eu quelques ratés. Je renvoie effectivement, il y a maintenant 60 ans, 70 ans, au baromètre de Harvard, où on avait tenté effectivement de mettre en place un système sophistiqué de prévision. Manifestement, on se trompe. On s'est trompé et ce n'est plus comme ça que ça fonctionne. Il n'empêche que les prévisions continuent, qu'il y a des prévisions qui sont faites à partir de modèles sophistiqués, que, bien évidemment, ces modèles sont faits sous réserve de problèmes politiques. C'est-à-dire que les économistes font des simulations, en quelque sorte. Ils disent, si l'euro se maintient à tel niveau, si le prix du pétrole se maintient à tel niveau, il se produira telle ou telle chose. Mais il est clair que dans les erreurs des économistes, dans les problèmes de prévision, d'erreurs de prévision, il faut bien se rendre compte qu'il y a des aléas politiques et des aléas climatiques qui font que les difficultés de prévision sont tout à fait considérables. Je renvoie d'ailleurs pour mémoire aux erreurs qui ont été faites récemment sur les évaluations de ce qu'on a appelé la cagnotte fiscale, qui n'était pas une cagnotte, d'ailleurs qui était quelque chose que les économistes connaissent bien, qui est tout simplement ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques. C'est-à-dire que lorsque l'économie repart, eh bien, il y a évidemment moins de dépenses pour le chômage, il y a davantage de recettes fiscales. Donc, dans ces conditions-là, le budget tend spontanément à créer moins de déficit. Par contre, lorsqu'il y a une crise, les stabilisateurs automatiques fonctionnent dans l'autre sens, bien sûr, et dans ces conditions-là, il y a moins de recettes et davantage de dépenses. Je n'ai pas répondu à votre question, bien sûr, mais si c'était pour me faire dire que les prévisions étaient délicates, je suis d'accord avec vous et que nous n'avons pas actuellement d'éléments, même si on fait des prévisions à court terme, à 6 mois ou 1 an, qui sont des prévisions glissantes, et ensuite, évidemment, on module en quelque sorte pour tenir compte des interactions avec les phénomènes politiques ou climatiques qu'on ne maîtrise pas.
Merci. Une question à droite cette fois-ci.
Bonjour, j'aurais une question, c'est à propos du cycle Kondratiev, non, je suis devant vous, ici.
Ah, pardonne-moi.
Non, devant vous.
Je suis là.
Ah, pardon.
Tout en haut.
Excusez-moi, pardonnez-moi.
Bonjour, c'est à propos du cycle Kondratiev, est-ce qu'on peut dire que depuis le début des années 90, on est dans une phase A d'un cycle Kondratiev avec seulement, puisqu'il n'y a plus d'inflation, une inflation déplacée du marché des biens et services à celui des actifs financiers avec, par exemple, la montée du Dow Jones.
Est-ce qu'on est... Alors, première question, est-ce que je crois au Kondratiev ? Réponse, jusque-là, je n'y croyais pas. Maintenant, je suis en train de m'y convertir parce que, manifestement, ça a l'air de marcher comme ça. Donc, bon, ceci étant, est-ce qu'il y a un déplacement, finalement, de la hausse des prix vers les bulles spéculatives? Réponse, c'est une possibilité. Et ça renvoie donc aux interrogations que je posais. Savoir si, finalement, cette reprise d'activité n'est pas actuellement nourrie par une bulle spéculative qui nourrit la richesse des ménages et donc leur consommation. C'est un problème spécifiquement américain, hein, parce qu'il est clair que le patrimoine aux États-Unis joue un rôle beaucoup plus grand dans les décisions de consommation des ménages qu'en France.
Merci. À gauche, tout en haut. À gauche, tout en haut d'escalier.
Vous avez expliqué la reprise de la croissance et le prolongement de la croissance aux États-Unis par le faible coût et des flux financiers et le faible coût des salaires, de l'emploi. Je me demandais si, depuis 2 ans, la reprise qui se manifeste en Europe et le prolongement de la reprise aux États-Unis n'est pas dû à la crise asiatique qui a fait que les matières premières étaient pas chères, que en ce qui concerne les flux financiers, il y a eu un fly to quality, c'est-à-dire que toute la trésorerie qui était dans les pays asiatiques n'est pas revenue et sur le marché américain et en Europe, en particulier à la suite de l'introduction de l'euro.
Oui, alors là, vous posez plusieurs questions tout à fait importantes, mais je voudrais d'abord peut-être préciser ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que la reprise de l'activité américaine était due au faible niveau de salaire. J'ai dit, hein, pour être bien clair, j'ai dit qu'on avait constaté que la reprise de l'emploi, la reprise de l'activité ne s'était pas traduite par une hausse des salaires, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Problème, hein, donc. Alors, deuxième point que vous abordez, rapidement, le problème, justement, dont je n'ai pas eu le temps de parler, le problème de ce qui s'est passé en Asie, et en fait, là aussi, c'est un élément tout à fait important. L'importance des crises asiatiques, je n'ai pas le temps d'en parler, et le fait qu'elles aient été résorbées malgré qu'elles ne soient pas traduites au niveau mondial. Donc ça, c'est un problème tout à fait important. Il y a eu tout de même, alors qu'on avait craint des changements effectivement importants, pourquoi la crise asiatique a pu être limitée, semble-t-il, c'est une question que l'on maîtrise mal. Et je ne sais pas bien actuellement pourquoi. On sait pourquoi la crise asiatique a eu lieu. Il y a des travaux tout à fait importants qui sont développés. Et il y a eu largement, semble-t-il, par le fait qu'il y a eu des problèmes de gestion de la crise. Et en particulier, on a effectivement continué une politique monétaire tout à fait peu adaptée dans le cas asiatique. Donc, voilà quelques éléments. Mais j'ai pas, excusez-moi, je n'avais pas tout noté. Il y avait une troisième question à laquelle je n'ai pas répondu et je voudrais essayer d'y répondre si je peux.
En fait, je me demandais si la prolongation de la reprise aux États-Unis ou de la croissance aux États-Unis et si la reprise en Europe n'était pas due effectivement à la crise asiatique qui a permis et de l'argent bon marché et des matières premières bon marché. C'est-à-dire effectivement un taux de profit inespéré pour les entrepreneurs.
Oui, alors je ne sais pas, mais je voudrais rebondir sur une question là que vous avez abordée. Excusez-moi si je ne réponds pas directement, mais je ne sais pas. Hein. Mais une question que vous abordez, et dont je n'ai pas parlé, c'est le problème de l'euro. Et l'euro, finalement, n'a pas joué du tout le rôle que l'on attendait. Parce que finalement, au moment des accords de Maastricht, on avait craint un alignement des positions de l'euro sur les positions de la Bundesbank, qui avait maintenu pendant des années, pour les raisons que j'ai essayé d'expliquer, un taux d'intérêt extrêmement élevé. Et donc, on craignait, quand on avait eu un mark surévalué, on craignait de la même façon un euro surévalué. La surprise, effectivement, c'est que, comme on l'a dit, ça a été peut-être une déception d'ailleurs, c'est que l'euro est apparu jouer un rôle tout à fait différent et sur lequel il faudrait dire 2 mots. Premièrement, nous avons maintenant une zone, l'euro en quelque sorte, dans laquelle les fluctuations de change n'existent plus. Donc les problèmes de stabilité, en quelque sorte, des zones monétaires sont faits de façon différente. Il n'y a plus de possibilité de spéculer contre le franc, pas. Il y a des possibilités de spéculer contre l'euro, mais l'euro c'est quand même une grande monnaie maintenant. Donc là, il y a des possibilités de stabilité considérables et il reste maintenant à l'intérieur de la zone euro des possibilités de jeu de la politique économique que l'on n'avait pas jusque-là. Parce qu'il y a maintenant, effectivement, un grand espace interconnecté sur lequel la politique économique peut retrouver un rôle tout à fait important. Le deuxième aspect sur lequel il faut insister, c'est que finalement, la faiblesse de l'euro, qui gêne beaucoup de gens, semble-t-il, sur le plan politique, elle nous gêne également sur nos porte-monnaies quand nous allons aux États-Unis, mais ceci est un autre problème, fait que les produits européens sont concurrentiels et que dans ces conditions-là, c'est un élément de plus pour permettre une reprise de la croissance en Europe. Mais sur les rapports entre ce qui s'est passé en Asie et ce qui s'est passé en Europe, je ne vois pas bien, effectivement, là, je ne vois pas bien les conséquences positives. Je réfléchis à voix haute devant vous. En fait, ce qu'on avait craint, c'était l'effondrement des marchés asiatiques et le fait que l'on perde en quelque sorte des marchés. Et vous mettez l'accent sur l'inverse, sur le fait que serait permis une arrivée d'argent frais, si je puis dire, hein, si je résume ce que j'ai tenté de lire ben, ou d'écouter dans ce que vous avez dit, une arrivée d'argent frais dans les pays européens, je ne le crois pas, mais ça serait à vérifier.
Et de matière... Bon. Merci.
Merci.
Madame à droite, levez-vous, je vous en prie.
Oui, bonsoir. Vous avez dit qu'en 87, la crise avait pu être jugulée par l'intervention de l'État. Moi, ce que j'observe depuis quelque temps, c'est qu'en fait, les États, voire les institutions internationales, interviennent de plus en plus, justement, pour colmater les brèches. Alors, bon, d'abord, la question de la moralité de l'affaire, effectivement, ça permet à tout le monde de faire tout et n'importe quoi, à partir du moment où, de toute façon, il n'y a plus de risque. Et puis, jusqu'où c'est possible, ça ? Moi, j'ai l'impression qu'on est dans une virtualité totale. La monnaie n'est plus basée sur rien. En fait, tout est en jeu d'écriture. Et jusqu'où ? J'entendais M. Raymond Barre dire que quand même l'or, c'était encore un petit peu important, parce que quand un pays avait une grosse crise, comme le Portugal, au moment de la révolution des œillets, eh bien, il a eu droit à des crédits, parce que quand même, il avait un petit peu d'or dans ses caisses. Alors, moi, je m'interroge sur tout ça.
Bien, alors vous interrogez sur plusieurs choses. Bon, je ne reviendrai pas sur l'or, donc qui a été. Bon, je crois que le rapport à l'or est une affaire un peu enterrée maintenant. Effectivement, pour des problèmes de gestion de politique monétaire, il apparaît que le rapport à l'or d'une monnaie est hors de question maintenant. Mais je voudrais revenir sur les questions que vous avez posées sur la gestion de la crise de 87. Alors là, pour être bien clair, j'ai parlé de la gestion non pas par l'État, mais par la Banque centrale américaine. Et il est clair que là, effectivement, il y a eu un rôle tout à fait important qui a eu d'ailleurs un effet pervers. Et vous avez raison de le signaler. Je ne suis pas là pour parler en termes de moralité. Bien sûr, je ne suis pas professeur de morale, mais d'économie. Et donc, quel effet ça a eu, cette affaire-là ? Eh bien, ça a eu un effet tout à fait important. Ça a permis de régler les problèmes de crise dans l'immédiat. Mais ça a entraîné ce que les économistes appellent, excusez-moi, un problème d'aléa moral. Les banques et les intermédiaires financiers ont alors compris, en quelque sorte, qu'il y aurait toujours un prêteur en dernier ressort qui viendrait à leur secours au cas où ils feraient de mauvaises affaires. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, ils ont poursuivi leurs opérations un peu hasardeuses. Les opérations un peu hasardeuses ont entraîné, dans les années qui ont suivi, des crises financières importantes, des ruines de banques, et donc il a fallu... comptoir français des entrepreneurs en France, scandales divers dans les différents pays sur lesquels je ne reviens pas. Mais vous avez raison, effectivement. Comment ? Oui ? Mais là, c'est un problème, là, c'est un petit peu différent, effectivement. Là, c'est un problème de ruine, effectivement, par spéculation. Et donc, bien entendu. Mais ceci signifie que la gestion de la crise à court terme, en quelque sorte, qui a empêché tout de même le déferlement qui a eu lieu en 29 ou en 33, a eu des conséquences qu'il a fallu effacer progressivement. Il faut savoir que l'intervention à tout prix d'une banque centrale allant au secours n'est pas neutre par la suite. Les agences économiques, les banques de second degré comprennent ce qui se passe et ensuite, excusez-moi, peuvent faire des bêtises plus grandes parce qu'elles pensent qu'elles pourront faire un peu n'importe quoi. Et vous avez raison, effectivement, de parler à ce, à ce niveau-là de problèmes de moralité.
Encore deux, trois questions, monsieur. Bah, levez-vous, je vous en prie. Merci.
J'avais d'abord une première question, mais je crois que vous avez déjà répondu. C'était sur les prophéties autoréalisatrices. Vous avez répondu tout à l'heure un peu. Mais j'ai une autre question. C'est à propos de l'historien de l'économie, Carl Polanyi, sur son œuvre sur l'écologie anthropologique, n'est-elle pas une réponse au grenier de la grammaire de monsieur ?
Alors je crois effectivement qu'il faut inciter monsieur à lire Carl Polanyi, donc vous lui donnerez les différents éléments. Alors oui, sur les prophéties autoréalisatrices, vous avez raison de poser cette question-là également, j'en ai parlé que rapidement. Mais maintenant, on se rend compte, bien évidemment, les économistes savent bien que le problème des croyances joue un rôle important. Et dans un certain nombre de cas, le fait que les agents économiques croient à un certain nombre de choses fait que la situation qu'ils envisagent comme étant crédit va se réaliser. Et donc là, il y a l'idée que la psychologie des agents économiques joue un rôle important. C'est parce que les agents économiques pensent qu'une monnaie est instable, qu'elle doit être dévaluée, qu'elle sera dévaluée. C'est parce que les agents économiques pensent que la bourse va baisser, ben, qu'elle baisse. Et donc, il y a bien effectivement des problèmes de réalisation, de croyances, de prophéties autoréalisatrices. Les économistes disent bien maintenant que les systèmes économiques ne sont pas forcément mus par ce qu'on appelle des fondamentaux, c'est-à-dire par des valeurs réelles, que les croyances jouent un rôle important et que donc il y a ce qu'on appelle parfois des pluralités d'équilibre et que donc il y a des phénomènes d'autoréalisation dus à des phénomènes psychologiques qui commencent à être connus et traités de façon très sophistiquée.
Merci. Trois dernières questions, monsieur, ensuite de nouveau monsieur. Et...
Bonsoir.
Je vois monsieur. Non, parce que...
Le cycle économique s'apparente à des lois physiques naturelles. On se rappelle de Lavoisier qui disait « Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, toute chose est égale par ailleurs. » Alors, il faut faire la part du fait de l'homme et du fait de la nature. Par exemple, le choc pétrolier, ce n'est qu'un retour à la réalité. Et ce n'est pas le fait de l'homme. Une chose qui n'a pas été acceptée par les pays développés. Ils ont voulu s'affranchir de cette dépendance et donc ils sont inclinés vers le nucléaire, d'où le problème du déchet nucléaire. Donc il y a deux autres questions. Problème du nucléaire. Deuxième question, la décroissance démographique, comment elle peut soutenir une croissance économique. Troisième problème, la spéculation et l'intérêt qui fut la maladie de flux monétaire.
Diable, vous me posez là des questions qui mériteraient chacune d'entre elles au moins 2 heures de débat. Alors, la question la plus importante, c'est une question générale que vous abordez, c'est le système, finalement, et votre idée, me semble-t-il, que le système économique est un système qui n'est pas différent d'un système physique. Or, je voudrais rappeler tout de même que l'économie est politique. Et donc, les systèmes sociaux jouent effectivement un rôle tout à fait important. Je ne pense pas personnellement qu'on puisse réduire le système économique à un système naturel. Je l'ai dit à plusieurs reprises, les spéculations, les prévisions jouent un rôle tout à fait central, même si évidemment, les prévisions sont difficiles, parce que justement, ça concerne des agents sociaux. Donc, et encore une fois, quand un astronome observe une planète, le fait qu'il dise effectivement, je prévois que la planète va aller dans telle direction, ne change pas le mouvement de la planète. Quand un spéculateur, George Soros, pour ne pas le nommer, dit la livre va tomber, ben, la livre tombe. Donc nous sommes bien dans des cas tout à fait différents, me semble-t-il.
Merci. Une question en haut à droite et on terminera
Bonsoir.
En bas à gauche.
Pourriez-vous, professeur, s'il vous plaît, nous préciser les corrélations entre crise économique et crise de la pensée économique ? En clair, n'y a-t-il pas des cycles dans la pensée économique ?
Ah, là aussi, je serais content effectivement d'en parler pendant plusieurs heures, mais Je ne suis pas sûr, moi, qu'il y ait une crise de la pensée économique, et je vais vous dire, effectivement, mais ceci est une idée extrêmement répandue et sur laquelle je voudrais revenir. Au fond, qu'est-ce qu'on appelle crise de la pensée économique ? Bien, tout simplement, on a eu l'idée que l'économie était une chose extrêmement simple. Et je me souviens, je vois un certain nombre de têtes blanches dans l'auditoire, et je vais donc me pencher vers eux amicalement pour leur dire de se souvenir de cette séquence où l'on a vu à la télévision française, si je ne me trompe pas, je crois que c'était un secrétaire d'État aux finances ou un ministre de l'économie et des finances qui est devenu ensuite président de la République, je ne donne pas de nom, et qui expliquait avec un léger chuintement dans sa voix que l'économie était une chose très simple, que lui, il était ministre, et que donc il était comme un conducteur, si je puis dire, dans un avion, et que tantôt il appuyait sur les gaz, tantôt il freinait. Bien effectivement, il y a eu l'idée dans les années 60, qu'on pouvait maîtriser la conjoncture. Et ceci, d'ailleurs, est à mettre en relation avec une certaine stabilité de la conjoncture qu'on avait constatée. Mais en fait, l'économie est plus compliquée et je ne pense pas qu'il y ait une crise de la pensée économique. Il y a effectivement des changements dans la pensée économique, mais je ne crois absolument pas qu'il y ait une crise de la pensée économique. La science économique se développe, elle se développe dans des horizons divers, mais je ne pense pas personnellement qu'il y ait une crise de la pensée économique. Voilà, il faudrait préciser ce que l'on entend par crise de la pensée.
Merci. Deux dernières questions, monsieur. Quel micro ? Alors, monsieur, d'abord à gauche.
Bonsoir, monsieur le professeur. L'économie occidentale est riche et apparemment bien structurée. Les pays riches ont des économistes de renom, très compétents, qui savent calculer, prévoir et même prévenir les crises. Or, on constate malheureusement la persistance du chômage et de la précarité. La misère sociale ne recule pas, tandis que les richesses augmentent. Il y a là un vrai paradoxe. Je me pose la question de savoir si les décideurs politiques ne manquent pas de volontarisme pour éradiquer à jamais la misère, à moins que celle-ci serve de fonds de commerce électoral. Si ce n'est pas le cas, on peut avancer qu'ils ont perdu tout pouvoir de décision au profit des détenteurs de capitaux et des spéculateurs qui ont réussi ainsi à mettre tout le monde à genoux, c'est-à-dire les populations et leurs gouvernants. Si cette dernière hypothèse est vraie, on peut craindre à l'avenir des jours encore plus sombres. En tant qu'économiste, pouvez-vous nous rassurer ce soir sur ce qui nous attend ?
Je suis effrayé, monsieur, par l'ampleur des questions que vous me posez. Non, je ne suis pas rassuré. Je ne suis pas rassuré parce que quand j'ai dit, effectivement, j'ai été très sommaire, vous le comprenez bien, j'ai parlé, effectivement, de grandeur au niveau global. J'ai dit effectivement que le pouvoir d'achat de l'ensemble des ménages français, par exemple, et là effectivement nous avons un vrai problème. J'ai dit qu'on avait parlé de crise alors que l'ensemble des ménages français était en gros de 50% plus riche qu'il y a 25 ans. Mais j'ai indiqué aussi, si je ne l'ai pas dit de façon suffisamment claire, je m'en excuse, j'ai dit que ceci, c'était un problème de moyenne et qu'il y avait des inégalités importantes qui s'étaient exacerbées. Et on sait bien, en particulier, dans le cas des États-Unis, pour reprendre ce problème-là, dans le cas des États-Unis, nous avons un problème différent de celui de la France en particulier. Le système américain fonctionne dans des conditions tout à fait différentes. C'est vrai qu'il y a moins de chômeurs de chômage qu'en France, mais il y a beaucoup plus de gens en prison, pour le rappeler tout de même. Donc, mais même, je crois qu'il y a le taux d'incarcération... des adultes américains, avec une différence évidemment entre les blancs et les noirs, est de 6 à 10 fois supérieure de ce qu'il est en France. Donc, et en outre, alors, laissons ce problème des prisons, que je n'aborderai pas bien sûr, mais qui est un problème réel pour les comparaisons. Aux États-Unis, en France en quelque sorte, je vais dire des choses un peu abruptes. On est pauvre parce qu'on est chômeur. Aux États-Unis, on est pauvre quand on travaille. Et donc là, effectivement, il y a des problèmes d'inégalité qui sont tout à fait différents et qui ne sont pas réglés. Et donc, il est clair que là, les problèmes de redistribution se posent dans un cas tout à fait différent. J'ai indiqué ici grandeur des évaluations tout à fait générales, dans le cadre de quelques 40 minutes, je ne pouvais pas effectivement parler des inégalités, ce qui n'était pas mon sujet.
Merci. Dernière question, monsieur.
Oui, bonsoir, monsieur le professeur. Vous nous avez parlé dans votre exposé que ce que vous appeliez crise, c'était un renversement de tendance. Je suis bien d'accord avec vous. Ce qui aurait été intéressant, c'est que vous n'avez pas eu le temps de nous préciser quel était votre avis de ce qui causait ces renversements de tendance. J'ai cru comprendre que vous craigniez des crises mobilières, enfin de craques de bourse, qui pouvaient provoquer ces renversements de tendance. Personnellement, moi, je crois beaucoup que le principal risque des économies qui sont de plus en plus instables, c'est le crack immobilier. L'histoire de ces dernières années des crises qui ont eu lieu dans les différentes zones mondiales ont montré, enfin, personnellement, je crois que c'est le crack immobilier qui a provoqué des renversements de tendance et que les variations immobilières ne jouent pas un tel rôle que certains le croient aujourd'hui, en particulier par rapport à ce qu'on appelle la bulle américaine aujourd'hui.
Oui, alors vous me posez une question, monsieur, sur laquelle je n'ai pas pu m'expliquer, évidemment, c'est celui des renversements de tendance. Pourquoi y a-t-il des renversements de tendance? Alors, réponse, il y a deux sortes d'explications. Il y a des explications que je qualifierais d'exogènes, je vais préciser, et explications endogènes. Bon, là, c'est un petit jargon, mais c'est pour classer les choses. Explication exogène, ça renvoie à l'idée de choc. Des chocs qui peuvent être de nature diverse, qui peuvent être des chocs politiques, des chocs climatiques, des chocs de productivité. Au fond, finalement, on a plusieurs exemples que l'on peut donner, et peut-être que Internet est un choc de productivité. C'est un exemple parmi d'autres. Il peut y avoir des chocs climatiques, des chocs politiques. Mais il peut y avoir également des causes endogènes. Et bien entendu, les choses se mélangent. Alors, j'ai indiqué ici, comme cause endogène du renversement, ce qui s'est passé en France avec l'évolution des taux de marge. Au fond, je vous ai dit la chose suivante, on peut expliquer le retournement de la conjoncture qui apparaît en France en 87, à peu près, effectivement, en 85-86, par le fait que les taux de marge des entreprises sont établis. Et je vous renvoie finalement à l'apologue, à l'assertion du chancelier Schmitt dans les années 70, qui disait à peu près la chose suivante. Les profits d'aujourd'hui créent les investissements de demain, les investissements de demain créent les emplois d'après-demain. Donc ici, on a une possibilité d'appréciation. Il y a une autre possibilité d'appréciation, bien sûr, c'est de dire, au fond, j'ai essayé de vous expliquer aussi pourquoi il y avait eu finalement la rupture en 73-74, et je vous ai dit qu'il y avait deux sortes d'explications. Il y avait à la fois le choc exogène, la montée du pétrole, et d'autre part, le phénomène endogène, en quelque sorte, l'élu social, qu'on peut qualifier d'endogène ou d'exogène, ça c'est ce que l'on voudra effectivement, qui explique que la part des salaires ayant monté beaucoup, la part des profits a diminué, et dans ces conditions-là, évidemment, l'investissement n'est pas réapparu de façon suffisante. C'est une explication, il y en a d'autres. Éventuellement, on peut estimer, et je conclue, qu'une partie du renversement qui s'est produit dans les années 93-94, 95, c'est le fait qu'on a rétabli en quelque sorte par des mesures ponctuelles le pouvoir d'achat des salariés, que dans ces conditions-là, en rétablissant le pouvoir d'achat des salariés, la demande a pu repartir, et que dans ces conditions-là, il y a interconnexion de causes de chocs exogènes et de chocs endogènes, et d'explications endogènes.
Merci beaucoup, monsieur le professeur.